Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président, Hervé Delouche, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy.
Dans notre précédente émission, Hervé, nous avons rendu hommage à Jean-François Villard, mort en novembre dernier. Et malheureusement, le roman noir français est à nouveau en deuil, puisque nous avons appris, il y a une semaine, la disparition de Abdel Hafed Ben Othman. Nous allons, bien entendu, évoquer cet auteur au profil singulier. Mais aussi au sommaire de ce Variation en noir numéro 16, pour ce dernier vendredi du mois de février 2015, un petit tour du côté des éditions Gallmeister, et en particulier à l'occasion de l'apparition récente du roman de Kim Zupan, Les Arpenteurs. S'il nous reste un peu de temps, Hervé, nous poursuivrons notre exploration au-delà du dossier consacré aux 70 ans de la série noire. Dont nous avons parlé le mois dernier, exploration du dernier numéro de la revue 813. Abdel Hafed Ben Othman, 1960-2015. Abdel Hafed Ben Othman est mort vendredi dernier, 20 février, à 54 ans. C'est jeune pour mourir, Hervé.
Oui, c'est évidemment que c'est jeune pour mourir, bien sûr, bien sûr.
Alors peut-être quand même. Alors c'est, je sais que tu étais très proche de Hafed. Hein, je sais que tu l'appelles Hafed.
On va l'appeler Hafed pour une raison précise, oui. Parce que évidemment Abdel Hafed Ben Othman apparaît sur ses romans. Ça, on en reviendra peut-être parce que l'histoire de son premier livre publié est une histoire déjà assez cocasse, mais intéressante, mais en fait, Hafed Ben Othman n'aimait pas son premier prénom Abdel, parce que Abdel, ça signifie serviteur, et comme tu le sais, et comme ceux qui l'ont lu ou fréquenté le savent, ce n'était pas exactement ce qu'il caractérisait, c'était totalement à l'inverse du personnage.
Pas son genre. Donc, je reviens sur cette mort qui peut surprendre beaucoup de ses lecteurs, d'amateurs de noir, mais qui a moins surpris les gens qui sont proches de lui, parce que et c'est lié en quelque sorte à sa vie, on va y revenir. Mais,
oui, puis il avait fait ses premiers infarctus en prison, puisqu'on va parler de ça, et ce qui veut dire qu'il y a été. Et évidemment, je pense que les auditeurs savent que c'est pas en prison qu'on est le mieux soigné, et donc, c'est une quatrième attaque cardiaque qui a eu raison d'Hafed Ben Othman.
Voilà, pour situer, alors c'est vrai que Dans l'introduction, j'ai précisé que nous rendions hommage à Jean-François Villard le mois dernier. On pourrait dire, quelque part, que nous ne sommes pas du tout dans le même registre littéraire avec Hafed Ben Othman, un intellectuel cultivé pour Jean-François Villard face à un autodidacte qui s'est cultivé forcément, mais pas avec le même parcours et des expériences de vie bien différentes, mais quand même, au final, l'écriture de romans noirs a un même support d'expression.
Oui, un même support d'expression, l'écriture de romans noirs, Marche de nuit sans lune et un roman très autobiographique, Éboueur sur échafaud, des recueils de nouvelles, Les forcenés, Les poteaux de torture, et puis des recueils d'aphorismes, pièces de théâtre,
poésie aussi,
récemment, à fait de... faisait l'acteur pour deux films, enfin bon, voilà, de la poésie, voilà, et une importance très grande de l'écriture qui était venue en prison.
Voilà, donc et en fin de compte, un auteur qui incarne complètement l'idée d'expression littéraire populaire, hein, et d'ailleurs il est venu à deux reprises,
oui,
au Salon du Livre du 1er mai à Reims,
oui.
Il est venu à deux reprises, et une première fois c'est Jean-Hugo Pell, hein, qui était là et qui présentait ses livres, parce que justement Afed Ben Othman était en prison. Donc pour resituer un petit peu le personnage, je pense que Hervé, il faut repartir de Éboueur sur échafaud, qui est un récit, un roman quand même inspiré de sa propre vie, hein, que l'on trouve, qui avait été publié initialement dans la collection Écrit Noir de Rivage, qui montre bien que c'est plus que du roman, hein, enfin bon, et
oui,
qui est réédité, en Rivage Noir. Hein. D'ailleurs, tous les textes de Fête Ben Othman, on les retrouve en Rivage Noir, il me semble.
Oui, oui, tout à fait. Il faudra parler aussi de la rencontre avec François Guérif. C'est ça qui est riche avec Afed Ben Othman, c'est qu'il y a toujours plusieurs. Différentes facettes, mais tout se tient, mais il y a différents angles sous lesquels le prendre. Tu parlais des boires sur échafaud. En fait, Afed Ben Othman, qui naît vers 60, par là,
en 1960.
Ouais, c'est ça. Ça n'est pas du tout un enfant de la banlieue. Il naît à l'époque dans le quartier, vers le boulevard Saint-Germain, par là. À une époque quand même aussi où ce quartier n'était pas exactement ce qu'il est aujourd'hui, hein, quand même. Voilà. Il a eu des bons profs, comme il disait. Voilà, il a fait des études, mais il avait aussi un père très très dur. Bon, on va pas faire la saga familiale là,
non,
mais on n'a pas le temps. Mais par ailleurs,
ce qu'on peut dire peut-être, Hervé, justement, par rapport à ça, c'est en référence au titre Éboueur sur échafaud, c'est le père de Afed Ben Othman qui lui disait, au pire tu finiras éboueur, au mieux sur l'échafaud.
Absolument, c'était une formule particulièrement, il n'y a pas besoin d'un psy pour comprendre que c'est assez violent comme départ dans la vie. Et dans le même livre, il y a un exergue, un chapitre où Ben Othman écrit: « À l'école, j'ai appris le verbe être, puis avoir. C'est du verbe obéir que date ma longue fugue, loin, très loin, de tous chemins apprivoisés. » Et évidemment, à partir de là, ça résume un peu ce que va être le trajet. Bon, Afed Ben Othman, il va commencer à faire des petits vols, des trucs comme ça. À 16 ans, il va se retrouver en centre de jeunes détenus. C'est le début, si j'ose dire, d'une longue histoire avec l'administration pénitentiaire, puisque toute détention confondue, il a passé en prison 17 années de sa vie.
Voilà, un tiers de...
Il est mort à 54 ans. Voilà.
Un tiers de sa vie, hein, c'est ce qu'il disait.
Oui, tout à fait. Je vais d'ailleurs, parce que Ben Othman, c'est quelqu'un qui aimait la précision des mots. Il y a une chose qu'il m'avait dit un jour et qu'il a redit dans des tables rondes qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai dit détention, mais il m'avait expliqué, j'y avais jamais pensé, que lui, jamais il n'utilisait le terme de détenu, mais il utilisait le terme de prisonnier.
Ouais.
Parce que les prisonniers, on emprisonne des hommes, on détient des objets.
Ah, oui.
Et
Voilà. Oui, mais ce qui montre effectivement son attachement à une écriture très, très précise, quoi.
Toujours très précise et en même temps avec beaucoup de poésie, une espèce de jouissance à manier les mots, pas du tout d'une façon, pas pour faire littéraire, pas pour faire des événements, qui était très loin de lui, mais par contre parce que plus qu'un trajet littéraire, ce qui l'intéressait, c'était le jeu de l'écriture. Ça, c'est une chose comme ça. Et alors, ça commence justement en prison, où il écrit de la poésie, un peu de théâtre, des courriers. Je sais qu'au fil du temps, il faisait même un peu l'écrivain public pour d'autres prisonniers. Et puis, il y a un atelier d'écriture où il va et... parce que Hafez Ben Othman, ça donnait à l'écriture en prison, mais refusait d'y travailler, de même qu'il n'a pas voulu travailler à l'extérieur, au sens du salariat à l'extérieur et de l'exploitation à l'intérieur. Et il était allé à un atelier d'écriture, et puis il y a eu une nouvelle qui a été... il avait écrit une nouvelle, ça avait été remarqué, c'était en 93, je crois, par un type qui était un ami de Robin Cook, l'écrivain anglais. Et puis ça a donné un recueil de nouvelles, Les Forcenés, qui est paru en 93 dans une toute petite maison d'édition, avec une préface de Robin Cook, qui avait eu cette phrase absolument magnifique, et on était au tout début de ce qu'allait écrire Hafez. Il disait: si je devais définir le travail de cet écrivain, je dirais que c'est son cœur qui l'attache devant nous et pose encore battant sur la table. Ça avait été à l'époque Hafez était en prison, il n'avait pas vu ce livre, où il était en cavale, enfin je ne sais plus, puisqu'il s'est évadé aussi de prison. Et puis c'est François Guérif qui avait qui avait été alerté par Robin Cook, son ami. Il avait lu ce livre paru chez un tout petit éditeur, et c'est ainsi qu'il a réédité, avant de connaître Ben Othman, il a réédité ce livre en Rivage Noir.
En 2000, années plus tard.
Et un jour, Ben Othman s'est pointé chez Rivage. Il venait d'apprendre par un ami ou quelqu'un d'autre qu'il y avait un livre qui portait son nom. Et puis, chacun ne savait pas très bien à quoi s'attendre, qui il allait rencontrer. Et les deux sont devenus de très grands amis. Et c'est ainsi que les autres romans ou recueils de nouvelles sont parus chez Rivage. Et dans ce livre dont on a déjà longuement parlé ici, ce livre du polar de
François Guérif.
Le
patron de Rivage Noir.
Voilà, le patron de Rivage Noir. Guérif disait de Ben Othman: c'est un formidable écrivain et un homme franchement extraordinaire. Parce qu'il faut dire, ça aussi, c'est que pour ceux qui l'ont rencontré, il y avait un humour noir qu'on croise dans ses textes, qui parfois peuvent être très noirs, comme certaines de ses nouvelles aussi. Une élégance, une tendresse de l'homme, et en même temps une férocité vis-à-vis de certains. Les juges, l'administration pénitentiaire, qui ne l'aimait pas, de toute façon. Pas
c'était réciproque, entre l'écorché et le rebelle, j'ai envie de dire.
Et pas du tout. Et Hafez Ben Othman, partout où il passait, il irradiait quelque chose, pour preuve tous les témoignages qu'il y a depuis son décès, de gens qui parfois l'ont croisé une fois et tout, et qui disent: mais j'avais l'impression de le connaître, parce qu'ils ont... Voilà, et c'était pas du flan, c'est-à-dire que Hafez Ben Othman, c'était... C'était ça. Mais il faut aussi dire qu'on n'est pas dans le... Là, c'est pour le portrait, et puis ce serait long. Alors, c'est quelqu'un qui braquait... C'était un braqueur de... Il y a un journal qui l'a appelé joliment un gentleman braqueur. C'est quelqu'un qui braquait des banques avec des armes factices. Voilà. Mais ce qui n'est pas là, Afed n'a jamais... Et pas quelqu'un du tout qui plaidait les circonstances atténuantes. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Je dis pas ça pour ça, mais c'était un peu le... Et je crois que le dernier braquage, il l'a fait, il était même déguisé. Enfin, voilà, il y avait... Et il y a même un de ses procès, à son dernier procès, les gens de l'agence qui sont venus témoigner en disant combien ils l'avaient trouvé sympathique. Mais tout ça, pas du tout pour diminuer la... Il savait aussi qu'il était de toute façon violent de cambrioler une banque, quoi qu'il en soit, c'est pas la question. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut, et je crois, j'ai réécouté une très belle chronique que tu avais faite de Marche de nuit sans lune, mais il faut vraiment insister sur la force de ces textes,
un sens de la formule aussi. Je reviens à François Guérif, hein, qui a rédigé un bel hommage et qui reprend d'ailleurs la formule de Robin Cook que tu nous as donnée, mais qui reprend aussi une phrase, des mots de Abdel Hafed Ben Othman. Il le cite, Hafed qui disait: il m'est arrivé de vouloir me réinsérer, mais à force de tourner en rond pendant des années dans les cours de promenade des prisons, il est dur de marcher droit du jour au lendemain. Voilà. Oui. Et donc François Guérif conclut: Hafed n'a jamais appris à marcher droit, surtout dans son écriture, toujours sauvage et surprenante. Et en 4 livres incandescents, il s'est imposé comme un écrivain majeur. Il nous laisse aussi le souvenir d'un homme irremplaçable. C'est un bel hommage et sans doute de belles formules et qui correspondent à une réalité. Oui, tu parlais de Marche de nuit sans lune. Donc ça, c'est le Rivage Noir numéro 676 qui est sorti en 2008, hein, il me semble. Et pour moi, effectivement, quand j'ai lu ce roman, j'avais lu auparavant un Éboueur sur échafaud, donc je connaissais déjà l'écriture, les textes de Ben Othman. Mais là, pour moi, il s'inscrit dans une lignée qui d'écrivains, Chester Himes, Edvard Bunker ou Donald Gaunce aux États-Unis. Et en France, bon, moi, je pense à Claude Lucas, Serge Livrosé, Philippe Maurice, Alexandre Dumas, Nano Rousseau. Alors, bien entendu, on les catalogue quand on dit ça, parce que ils sont tous passés par la case prison, mais ce qu'on retient d'eux, c'est la case littérature, en fin de compte.
Oui, ce qui est intéressant dans ce que tu cites, et d'ailleurs dedans, tu as cité Edouard Bunker, qui est un écrivain qui était particulièrement cher à Hafed Ben Othman, qui d'ailleurs avait présenté parfois de ci de là, faisait parfois la présentation du film Animal Factory, tiré d'un roman de Bunker, où Bunker apparaît. Et puis il citait aussi, il appréciait les gens que tu cites, il citait aussi Jean Genet. Il y a le point commun, parce que c'est indissociable, qui est l'importance des mots. C'est aussi ce qui a sauvé, ce qui a fait tenir, plutôt que sauver, ce qui a fait tenir Hafed Ben Othman en prison, c'est ça, c'est-à-dire d'avoir eu les mots, l'écriture, et c'est une chose, cet amour-là des mots l'a fait vraiment tenir, d'autant que en plus il a parce qu'il y a des anciens, il y a aussi la question n'est pas, je ne formule aucun jugement sur qui que ce soit, la question n'est pas du tout là, mais ce qui est intéressant aussi avec Hafed Ben Othman, c'est qu'il a continué à être les deux à la fois. Que il y a eu des interruptions, voilà,
c'est ce que je disais, hein, au salon, je pense que c'est le salon 2008, au moment de la sortie de Marche de nuit sans lune. C'est pas lui qui présentait son livre, parce qu'il était prisonnier, hein, pour reprendre le mot qu'il utilisait. Absolument. Et c'est Jean-Hugues Hoppel, un proche aussi, hein, de Hafed Ben Othman, qui avait insisté pour que ses livres soient présents au salon. Et donc ses livres, les livres de Hafed Ben Othman, étaient là, et c'est Jean-Hugues Hoppel qui les avait présentés.
Voilà, tout à fait. Et puis pour compléter la chose, il avait de toute façon, en même temps qu'il multipliait des initiatives littéraires, il faisait des ateliers d'écriture. Il a fait aussi, je crois, un roman noir pour la jeunesse.
Ouais, et puis un journal aussi pour les prisonniers.
Il continuait une activité contre les prisons dans le collectif L'Envolée.
Voilà, c'est ça.
Avec une revue.
Et puis il faisait un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment.
Avec une émission de radio.
Voilà, exactement.
L'Envolée sur Fréquence Paris Pluriel.
Voilà.
Une radio libre parisienne. Et c'était tout ça marchait ensemble dans la tête et dans les actes d'Afet Ben Othman, c'est-à-dire que c'est typiquement quelqu'un qui ne lâchait rien de toute façon, mais tout ça avec un sourire rayonnant et avec
Moi, c'est le souvenir que j'en garde, parce que bon, moi je l'ai croisé donc deux fois au Salon du Livre. Hein. C'est ce souvenir-là que je garde. Effectivement, on le croisait. On n'avait pas l'impression de rencontrer quelqu'un qui avait passé plus de 15 ans de sa vie en prison.
Non, il y avait par ailleurs, pour prendre ce terme, mais en l'éloignant de tout côté Pigalle et tout ça, mais c'était un beau mec aussi. Mm-hmm. Enfin, je veux dire par là, au sens, il y avait une élégance, il y avait Afet Ben Othman avec sa casquette et toujours une espèce de ça rayonnait quoi. Mm-hmm. Enfin, et toujours passionnant et toujours passionnant dans les rencontres et vraiment les livres, il faut
à l'écoute. Moi j'ai le souvenir là aussi, à l'écoute des gens qui venaient à sa rencontre, puis toutes les petites mains qui organisent un salon vraiment très très sympa.
Après Ben Othman, ce qui l'intéressait c'était justement tout le monde et tout le monde à égalité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas à partir du moment où le courant passait, il n'y avait pas de préséance et c'était pas la question. Enfin ça on l'aura, je pense, compris. Et donc, je pense que pour qui ne l'a pas lu,
le meilleur hommage.
Prendre une nouvelle des forcenés ou attaquer, tout.
Je pense que le meilleur hommage qu'on peut lui rendre, c'est de le relire ou de le lire, bien entendu.
Tout à fait.
De toute manière, il y a quatre livres. Hein, Rivage Noir, je suppose qu'ils vont sans doute être peut-être réimprimés ou on va les trouver assez facilement. Je pense que François Guérif va être vigilant.
C'est évident qu'il y avait un attachement absolument, y compris au moment quand Afet Ben Othman est retourné en prison, alors qu'il était déjà édité chez Rivage. François Guérif a toujours été là pour... il y avait une...
Donc, on va citer les titres. Les Forcenés.
Oui.
Éboueurs sur échafaud.
Voilà.
Le troisième, c'est...
Les Poteaux de Torture. Un recueil de nouvelles.
Voilà, c'est ça. Et le quatrième, Marche de nuit sans lune. Tout ça en Rivage Noir.
Absolument. Here it is again, San Quentin, just for you. San Quentin, you've been living hell to me. You called at me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You've cut me and you've scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, why can't you understand? San Quentin, what good do you think you do?
Do you think that I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And the whole world will regret you did no good. San Quentin, you've been living hell to me.
Johnny Cash en concert dans la maison de San Quentin aux États-Unis, bien entendu. Et donc vous écoutez Variation en noir sur Radio PFM 99.9, l'émission consacrée aux littératures policières, une émission qui est réalisée en collaboration avec 813, donc, et avec Hervé Delouche. Alors Hervé, ben, la prison, on y reste quelque part avec le bouquin dont on a eu envie de parler aujourd'hui. Pour moi, c'est une grosse surprise. Ça s'appelle Les Arpenteurs de Kim Zupan aux éditions Gallmeister, un premier roman a priori, et qui se passe en grande partie dans une prison, la prison du comté de Cooper au Montana, dans un coin paumé des États-Unis, pas très loin des Crazy Mountains, pas très loin non plus de la ville de Missoula, qui est un centre littéraire américain.
De James Crumley, oui.
Voilà, ben, oui, et de tout un tas d'auteurs. Tu connaissais, toi, Kim Zupan, Hervé?
Ben non, je l'ai découvert grâce aux excellentes éditions Gallmeister.
Ah oui, hein.
Mais c'est une grosse surprise, et c'est une surprise magnifique, parce que moi je trouve que c'est vraiment un livre extrêmement puissant. Que peut-on en dire?
On peut peut-être commencer un mot, ouais, quand même sur l'auteur, Hervé, parce que quelque part il a un CV emblématique d'une certaine littérature, hein. Je cite, il a gagné sa vie grâce à son métier de charpentier, il a été tourateur fondeur, professionnel de rodéo, pêcheur de saumon en Alaska, réparateur d'avions à réaction, oui, et il enseigne à l'université de Missoula, mais il n'enseigne pas la littérature ou je ne sais quelle autre science. Il enseigne la menuiserie. Donc,
il enseigne ce qu'il connaît bien.
Voilà, hein, oui, donc, donc c'est vrai que c'est, oui, étonnant. Et alors bon, c'est vrai que c'est emblématique d'une certaine littérature américaine, hein, qui ouvre sans doute plus facilement ses portes à ce type ce type d'auteurs, hein, qui viennent de ces milieux qu'ailleurs dans le monde. Mais là vraiment, si on ne sait pas, hein, on ne connaît pas son CV, on a plutôt l'impression d'avoir un universitaire prof de littérature. Moi je trouve que à la fois l'écriture est très forte, mais en plus il situe son histoire, il l'a construit. Moi j'ai été bluffé, en fin de compte. Bon, on peut le dire régulièrement quand même dans le roman noir, on a l'impression d'avoir déjà lu, hein, ou des choses assez proches, tandis que là son approche, hein, pour moi c'était complètement nouveau, quoi. Cette idée de réunir, donc, hein, pour aller très vite, il réunit un jeune adjoint au shérif qui est chargé de garder la prison, donc de ce comté du Montana. Et dans cette prison, se trouve un vieil homme, mais qui est un homme qui a commis un certain nombre de crimes très durs, oui, et s'engage entre eux un dialogue, et ce qui les rapproche, c'est leur amour de la nature, du travail de la terre,
oui,
et c'est vraiment étonnant.
Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire, comme tu le disais, pour les habitués du roman noir, et aussi d'une certaine littérature américaine, des livres qui évoquent avec une qui sont imprégnés de nature ou des vies et ou à l'inverse qui sont imprégnés ou qui se passent en milieu carcéral, il y en a eu mmh. même eu beaucoup. Et là, justement, alors moi, l'écriture est absolument magnifique. On parlait tout à l'heure du style de et du jeu avec les mots mmh. et de leur poésie d'Afed Ben Othman. Et là, dans un tout autre style, mais on a aussi c'est d'une beauté. Moi, j'étais ébloui par moments par le texte. Mais il y a aussi, et t'as exactement, j'ai pensé exactement comme toi, il y a cette espèce de construction qui est fichtrement bien faite, qui va permettre. Il y a ça, après cette rencontre entre ce criminel endurci, je crois qu'il a 77 ans, qui est John Gloed, Valentine Milwaukee, qui est le jeune adjoint, le jeune flic qui a la charge de passer les nuits avec lui, et il va se nouer. Alors parce que évidemment le shérif aimerait bien que en fait pas alors que le procès se déroule, que Milwaukee fasse parler John Gloed, et en fait c'est plutôt qu'une confession ou des aveux, c'est même une conversation qui va se nouer petit à petit. Mmh. Je trouve qu'il y a une scène absolument, il y a une scène qui scelle un peu cette chose-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une inversion des rôles, mais un passage qui se fait à un moment. John Gloed, qui n'est pas un homme de culture, il demande à Milwaukee, il a entendu qu'à une de ses audiences, on l'avait accusé de turpitude.
Oui.
Et il dit à Milwaukee, mais est-ce que tu pourrais me dire ce que ça veut dire? Parce que moi, je ne connais pas. Milwaukee avoue que ça ne lui dit rien non plus. Il va voir un dictionnaire. Et voilà, il revient et voilà ce qu'il dit. Bassesse, vilainie, dépravation. Mm-hmm. Il avait écrit les mots sur sa paume et il la dirigea vers Gloed, en guise de preuve, la plaçant de façon que la lumière éclaire les mots, les larges lettres majuscules dans sa main de fermier, pareil à des tatouages carcéraux.
Et ouais.
Ça, je trouve que c'est fort, parce que là, se fait quasiment le passage se fait là. C'est-à-dire que, et à partir de là, ces deux hommes, comme tu dis, à des âges très différents, il y a aussi des fantômes du passé qu'ils vont échanger. La mort du père dans un ouragan pour Gloed quand il était très jeune, il y a aussi la mort d'une toute autre façon, mais ça je ne vais pas dire comment parce que je pense que c'est en le lisant qu'on le découvre, dont la mère du jeune Valentine Milwaukee est morte, et puis il y a à un moment. C'est drôle aussi, le shérif demande, parce qu'il essaye quand même de savoir ce qu'il se dit, et il demande à Milwaukee, il lui dit, mais alors, ça va, il te confesse des choses, vous parlez de quoi? Et le jeune flic lui dit, on parle d'agriculture.
Voilà, c'est ça. Et justement, la construction avec des allers-retours, elle montre qu'il est tout à fait possible d'échanger, de tisser une relation pour un shérif avec un prisonnier. Alors que si, d'entrée de jeu, ce jeune shérif connaissait le CV du tueur, je pense qu'il n'y aurait pas eu ces échanges. C'est vrai que ce n'est pas possible. Mais une fois que ça commence, une fois que c'est parti, eh bien ça ne peut que continuer et avec donc le passé, le poids qui repose sur les épaules des uns et des autres. Hein. C'est en cela que c'est très fort.
Et l'évocation, tu l'as dit aussi, parce qu'elle est si forte pour eux, elle a été si forte pour eux dans leur enfance, de la nature,
oui,
qui n'est pas là du tout en décor, qui est d'ailleurs somptueusement décrite avec aussi toute sa sauvagerie et toute sa dureté. ils ont tous les deux, ils viennent tous les deux de la terre, ils aiment la travailler, ils ont l'un comme l'autre, à leurs âges très différents, ils ont tous les deux des mains d'agriculteurs, de paysans, voilà, et ils...
D'ailleurs, le titre original, hein, bon, c'est un choix de l'éditeur qui est intéressant parce qu'il se conçoit aussi, on compte certains oui. pas dans ce livre, mais le titre original, c'est, je pense que c'est The Plowman, c'est une traduction plus classique, qu'on traduirait plus classiquement par les laboureurs, et il y a de ça aussi.
Tout à fait. Je pense qu'évidemment, en français, ça aurait fait croire à un roman agricole.
Voilà. Hein,
pardon, donc, il n'aurait peut-être pas été très heureux.
Non, et en fin de compte, les arpenteurs, ça le fait aussi. Donc, c'est dans la collection Nature Writing de Gallmeister, mais je pense que ça aurait pu être dans la collection Noire, ou même dans la collection Americana. Bon, Gallmeister a fait ce choix, mais donc, c'est vraiment un roman que les amateurs de romans noirs doivent absolument découvrir.
C'est un roman, mais alors vraiment, vraiment, il faut... il faut pas employer ce mot à toutes les sauces, mais
non.
C'est vrai que c'est incontournable. C'est un roman, vous rentrerez dedans. Moi, j'avais attendu un peu, j'avais pas le temps, tout ça. À partir du moment où on rentre dedans...
L'introduction, le prologue, hein, il est très fort.
Après, je pense qu'on est forcément attrapé.
Voilà, écoute, Hervé, l'heure tourne. Nous reviendrons sur le dernier numéro de la revue 813 une prochaine fois. On peut signaler quand même que chez Gallmeister, il y a une nouvelle collection qui vient d'apparaître, Néo-Noir. Hein, donc on en reparlera sans doute prochainement.
Reparlera et d'ores et déjà il y a dedans une pépite aussi d'un auteur qu'on avait déjà remarqué qui est Benjamin Whitmer qui a écrit Pike. Et là il y a un deuxième roman qui s'appelle Cry Father qui est un beau roman noir.
On en reparle prochainement. C'était Variation en noir sur Radio PFM dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Merci donc encore une fois Hervé, merci à Bernard pour la technique, et rendez-vous dans un mois, fin mars, pour d'autres explorations du noir. De bien bonnes lectures à toutes et à tous.